une femme m'apparut. Chapitre 9. Le décousu des heures qui suivirent m'étonne et m'épouvante. Je marchais longtemps dans la nuit en tâtonnant, comme un être soudain flappé par la morose. Je me souviens que dans ma chambre, des parfums, aussi doux que des poisons, me brûlèrent les narines et la gorge. Je ne voyais que le front démesuré d'Ionne. Le battement de mes paupières enfiévrait mes yeux malades. Je m'assoupis lourdement, stupidement, comme un ivrogne couché sur des pierres. Et je me réveillai. La chambre était bleue de ténèbres. Une rigide stupeur immobilisait mes pensées hagardes. Ionne, debout au pied de mon lit, contemplait ses mains, dans cette attitude étrange qui lui était familière. Sans me regarder, elle recula jusqu'à un angle où elle n'était plus qu'une blancheur de brouillard et de songe. D'un pénible effort, je tentai de me lever et d'aller vers elle. Mais mon pied glissa, et je tombai dans un flot de lave ardente qui ruisselait en bouillonnant au pied de mon lit. Je voulus hurler ma détresse, mais le fleuve fumant me charriait, fêtu de paille égarée dans ses ondes de feu. De chaque côté du torrent embrasé, de vieilles femmes accroupies faisaient cuire des œufs et du riz sur la flamme liquide. Et la lune était de cuivre, tel un soleil d'hiver. Des cendres tombaient en une grêle drue. Une soif abominable me desséchait le palais et la gorge. Mes yeux s'ouvrirent sur un temple au souffle de fournaise. Un trône de rubis empourprait l'ombre ainsi qu'un astre couchant. Du haut de ce trône, Kali me contemplait avec une férocité religieuse. Elle laissa choir la tête de mort qu'elle broyait à la manière des chiennes affamées et me sourit de ses dents rouges. Le sirocco m'emportait. Tourbillon de sable brûlé et de poussière jaune. Le sable et la poussière remplissaient atrocement mes poumons meurtris. J'ouvris la bouche et le râle des étranglés secoua ma poitrine. Le sable et la poussière m'étouffaient, m'aveuglaient, m'ensevelissaient. Je criais dans la nuit sans étoiles. Des prêtresses aux doigts trempés de nard rythmaient des danses mystiques. Elles étaient à demi voilées de tissus d'un bleu nocturne. Une vaste émeraude soulignait leur nombril, et leur sexe découvert brûlait de flammes blondes ou rousses. J'étais une plume de paon que l'une d'elles agitait au gré de la danse lascive. Ce mouvement rituel me secouait impitoyablement. Par la fenêtre ouverte de la chaumière entrait la voix des passantes. Tout l'infini de l'inconnu entrait par la fenêtre ouverte avec ses voix. Mais je ne les écoutais point, les yeux fixés sur une rose blanche qui se balançait du haut de la croisée. Ce fut ensuite un paysage puérilement artificiel qui évoquait les illustrations anglaises des contes de fées norvégiens ou allemands. Des arbres vernissés au feuillage peint s'alignaient de chaque côté d'une allée plus lisse qu'une chevelure de petite fille. Un grondement de cascade, un sifflement de serpents mêlés au chuchotis des feuilles. Puis encore des cascades. Et je me trouvais devant le cadavre de Vali. Vali flottait sur un marais stagnant. Les seins blêmes étaient deux nénuphars bleus. Les yeux révulsés me regardaient. Je compris que je l'avais noyée autrefois dans le marais stagnant. Elle flottait, les cheveux mêlés d'algues et d'iris comme une perverse Ophélie. Je l'avais tuée autrefois pour un motif insensé. Et, de ses yeux sans regard, elle me contemplait éternellement. Je sentis sur mon visage l'air froid d'un caveau funèbre. J'étais debout au milieu de 4 cercueils. Le plus grand était un cercueil d'homme. Il avait je ne sais quoi de massif et d'imposant. Je compris que c'était là le cercueil d'un homme de marque, d'un politicien ou d'un diplomate. Des fleurs sans poésie s'y étalaient en larges taches sombres, des immortelles, de lourdes pensées aux pétales de velours pourpre. Auprès de cette masse s'atténuait et s'amincissait un cercueil embryonnaire, un cercueil de larves que baignait un crépuscule de limbe. Des couronnes incolores, aux parfums très faibles, s'y fanaient avec simplicité. Ce cercueil d'enfant était tragique et nul, comme tout ce qui aurait pu être. D'affreuses verroteries funèbres recouvraient un cercueil ratatiné, dont le bois était sillonné de nombreuses rides, pareilles à des toiles d'araignées. Ces hideuses couronnes de perles noires et jaunes devaient perpétuer la mémoire bourgeoise d'une vieille femme à la voix maussade. Et, au plus profond de l'ombre, dans une adoration perpétuelle de cierges fervents, un cercueil virginal, parfumé de violettes blanches. Je compris que je voyais le cercueil d'Ione. Le silence était si mystérieux que les battements mêmes de mon cœur s'étaient tus. Mais, plus effroyable que le clairon des jugements divins, le bois du grand cercueil craqua. C'était la fermentation de la pourriture. Un râle et un râle encore, et un dernier râle. J'avais cessé d'exister. J'étais une âme dépouillée de son corps. J'étais une masse informe et confuse, sans limite et sans consistance. Je flottais, n'ayant d'autre sensation qu'un grelottement de nudité. Une pensée surnageait au milieu de ce vide, conscient de lui-même, une pensée plus aiguë que le désir et la prière. Une personnalité, un corps, un nom. Oh, redevenir quelqu'un, être ce que je fus, quoique j'aie oublié déjà qui je fus. De l'ombre et le néant.